Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre grand Dieu. Ça va?
Oui.
Vous êtes en santé? Vous êtes content?
Oui.
Et si vous n'êtes pas en santé, c'est la place pour qu'on prie pour vous. Si vous n'êtes pas content non plus, c'est la place qu'on prie pour vous pour que Dieu vous donne de la joie. Amen. La maison de Dieu, c'est toujours la place pour toutes les situations et les circonstances dans la vie d'un enfant de Dieu, et même dans la vie de celui qui ne connaît pas Dieu. Quand tu es ici, tu es à la bonne place. À la bonne place, parce que David pouvait dire dans la parole de Dieu, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons. Il n'a pas dit, allons dans un bar ou dans un maquis ou dans le trou du diable. Il dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, j'ai le privilège de terminer la série d'enseignements que notre frère Trevor a débuté il y a 2 semaines, qui voudrait dire « élargissez votre cœur ». Trevor nous a enseigné sur cette parole-là comment nous pouvons élargir notre cœur. Il ne s'est pas contenté de nous dire « élargissez votre cœur », mais il nous a montré comment on peut élargir notre cœur, n'est-ce pas? Alors, ce matin, j'aimerais faire un petit rappel sur ce point-là. Les deux enseignements que Trevor a donnés, élargissez votre cœur ou élargissons notre cœur. Qui se souvient de sa première prédication? Comment nous pouvons élargir notre cœur? En faisant quoi? En ayant une foi sans limite. Ça, c'est la deuxième partie. Tu as bien répondu, mais c'est la deuxième partie. Ça, c'est ce qui a été donné dimanche dernier. Merci. Au moins, toi, tu as une mémoire encore. Hein? Alors, la première partie avait dit, élargissons notre cœur en ayant une grâce sans limite. Une grâce sans limite. Amen. Donc, ayons une grâce sans limite, ayons une foi sans limite. Et ce matin, il m'est confié d'apporter, ayons la compassion sans limite. Amen. Alors, je pense que les trois ensemble, ça fera de nous des chrétiens solides. Ça fera de nous une église solide. Une église qui veut marcher et qui marchera dans les voies de Dieu pour avoir de l'impact dans la société et dans sa communauté. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas? Alors, donc, ça prend la foi pour s'approcher de Dieu. Et on dit aussi sans la grâce. Car nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se... Alors moi je dirais afin que personne ne se pète la bretelle. Les bretelles, c'est ça? Ok, donc c'est ça que ça voudrait dire. Donc on a besoin de ça. Donc la compassion de Dieu, les compassions de Dieu sont quelque chose d'important. Et quand on entend parler de compassion généralement dans notre société, qu'est-ce qu'on pense? On pense à quoi? Généralement, quand on entend parler de compassion, on pense réellement à ceci, à l'ONU, aux organisations humanitaires. J'aimerais ce matin que parler de la compassion, sans parler de ces organisations humanitaires. Ils font bien leur job, mais ça ne dit pas que l'Église est privée de faire la sienne, n'est-ce pas? Alors, les organisations humanitaires, quand on entend tout le temps parler de compassion, c'est les organisations humanitaires qui font ça. Alors, on pense à la CHR, on pense à la Croix-Rouge, on pense automatiquement à la fondation du docteur Julien qui s'occupe des enfants, n'est-ce pas? Alors, on pense aussi à Moisson Mauricie, on pense aux soupes populaires, n'est-ce pas? Et j'aimerais que ce matin attirer notre attention que la compassion n'est pas la chasse gardée de ces organismes-là. Ce n'est pas eux seulement qui doivent faire, ce n'est pas l'affaire de ces organismes seulement. C'est aussi notre affaire. Ce n'est pas non seulement affaire de ces organismes, ce n'est pas non plus l'affaire de Mère Teresa. Ce n'est pas sa chasse gardée. Et souvent quand on parle de compassion, on a l'impression que c'est ceux-là qui doivent faire. Moi, ça ne me regarde pas. L'ONU va le faire. Moisson Mauricie va le faire. Mère Teresa va le faire. Je t'apprends ce matin que Mère Teresa est partie. Elle n'est plus là. Si tu ne le sais pas. Elle n'est plus à Calcutta. Elle est morte il y a quelques années. Amen. Alors donc, ça voudrait dire que tu dois prendre ton bâton de pèlerin et faire ta job. Mère Thérèse a fait sa part, mais toi aussi tu as ta part à faire, j'ai ma part à faire. Et nous avons notre part à faire comme Église. Ça va? Ok. Bien. Maintenant, si nous voulons pratiquer la compassion, nous devons savoir qu'est-ce que c'est que la compassion, n'est-ce pas? Alors, moi j'aimerais que nous comprenions un peu ce que c'est que la compassion dans quelques définitions qui nous sont données. Alors, ici, la compassion, en latin, voudrait dire compatio. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais souffrir avec. Souffrir avec. Et quand on le lit en grec aussi, ça voudrait dire de la sympathie, on comprend cela. Une vertu à laquelle, et c'est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou à ressentir les souffrances d'autrui et poussé à y remédier. Donc, avoir de la compassion, ce n'est pas une position passive. Elle n'est pas passive. Donc, on est en action. Et quand j'ai de la compassion, je réagis à quelque chose. Je réagis à la situation de quelqu'un. Je réagis à l'état de quelqu'un. Je réagis réellement à la souffrance de quelqu'un que je vois. Donc, ça c'est la définition qu'on nous donne par rapport à la compassion. Et il y a d'autres définitions que j'ai prises. Il dit, c'est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Je ne sais pas, est-ce qu'à Trois-Rivières, il y a des gens qui sont souffrants? Est-ce qu'à l'Assemblée, ici, il y a des gens qui sont souffrants? Dans notre société, il y a des personnes qui sont souffrantes? Peuvent-ils bénéficier de notre compassion? Avoir de la compassion, c'est des émotions qui nous font partager la peine et les plaisirs d'autrui. Et j'aime cette partie-là aussi. Non seulement la souffrance, mais aussi les émotions de plaisir, de la joie de la personne. Ce matin, nous venons de fêter quelque chose, de présenter Léo, n'est-ce pas? Nous sommes rentrés en émotion. En émotion, parce qu'on présente un enfant au Seigneur, ce n'est pas tous les jours qu'on fait, c'est un don de Dieu, on est content de présenter cet enfant. Alors nous sommes en émotion, nous partageons la joie, nous avons de la compassion pour les parents, nous prions pour eux pour qu'ils puissent réussir leur mission comme parents. Amen. Et hier, on était aussi au salon funéraire pour notre sœur Brigitte qui a perdu son papa. Plusieurs personnes étaient là. On est parti apporter notre soutien à notre sœur. Le cadavre, on ne pouvait rien faire pour lui. Même si on pleurait pour lui, il ne sentira rien. Même si on le flattait, il ne sentira rien. Mais ceux qu'il a laissés dans le deuil avaient besoin de notre compassion et de notre attention, de notre affection. Amen. Alors, on est allé soutenir Brigitte et toute sa famille. Ça, c'est notre mission comme chrétiens, comme Église. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La compassion, dans la parole de Dieu aussi, on peut voir dans la Bible, c'est interchanger le mot miséricordieux est synonyme de compassion. Et des fois même le mot pitié aussi revient. Et en fouillant, je suis allé voir, quand je vois le passage où à Jéricho, et Bartimée demande à Jésus qui passait dans les rues de Jéricho, et dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne l'entendait pas. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais attirer un peu notre attention parce que le mot pitié est souvent compris d'une manière péjorative. Et ce n'est pas péjoratif la pitié. Il peut avoir cet aspect, ça c'est la deuxième définition de la pitié qui peut être péjorative. Mais la première définition de la pitié n'est pas péjorative. Elle n'est pas péjorative dans le sens qu'elle rejoint réellement les compassions. Alors quand Bartimée disait « Fils de David, aie pitié de moi », il était en train de dire « Fils de David, aie compassion de moi ». Amen. Et Jésus se tourne, il lui donne la vue. Donc, la compassion, ici, selon la Bible, c'est interchangeable avec le mot miséricorde, ainsi de suite. Alors, donc, nous pouvons voir, dans ce sens-là, quand nous regardons, nous pouvons voir que c'est une attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. C'est ce que la Bible nous dit. Quelqu'un qui vit une détresse profonde, ça nous permet de porter leur fardeau avec eux, de partager. Des fois, on peut aider quelqu'un dans la compassion, mais on ne peut pas changer la situation. Comme hier, on était au salon funéraire pour notre sœur, on est allé la consoler, on n'était pas en mesure de ramener son père à la vie. Vous comprenez cela? On pouvait l'aider, elle, aider sa famille, mais son père, on ne pouvait rien faire. Donc la compassion, il y a des fois, c'est soutenir la personne qui est dans la détresse. Des fois, on peut changer des données, mais des fois, on ne peut pas. La compassion, dans l'Ancien Testament, quand on peut regarder dans le verbe hébreu qui nous parlait de Ram, qui dit, ce qui signifie brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans des difficultés, la faiblesse ou la souffrance. On brûle de vifs désirs, on brûle de tendresse, de soutenir, d'aider. On ne peut pas rester inactif sans agir, à cause même de la situation. Alors, je vais terminer avec ce point. La compassion sans limite, alors dans ce cas, on peut le dire, c'est quoi? La compassion sans limite s'applique aussi, quand on regarde à ce moment-là, on voit que c'est aussi l'amour d'un père, quand l'Écriture parle. C'est l'amour qu'un père peut avoir pour son enfant, qu'une mère peut avoir pour sa fille, et que même un amoureux peut avoir pour sa femme. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 49, 15, il dit, une mère peut-elle abandonner son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion des fruits de ses entrailles? Et là, quand on parle de compassion, on parle des fruits de ses entrailles, de ses tripes. Et là, c'est émotion, c'est le centre de notre émotion selon la parole de Dieu. Les entrailles. Donc, les entrailles d'émotion tremblent, agissent en nous. Alors maintenant, ce matin, mon but est de réveiller en nous et en chacun de nous ces entrailles d'émotions qui dorment. Ces entrailles d'émotions qui sont paralysées ou qui sont gelées par le froid. Ces entrailles d'émotions qui doivent agir, qui doivent porter des jambes et marcher dans les rues de Trois-Rivières. Marcher dans notre quartier. Marcher dans les couloirs de notre travail. Marcher dans les couloirs de l'hôpital. Marcher dans les couloirs de nos régions. Marcher dans les couloirs des cœurs de chacun de nous. C'est ça mon objectif ce matin, et c'est ça l'objectif de tous les dirigeants de l'Église qui voudraient que nous soyons une Église qui brûle de compassion. Là, nous allons le voir dans différents passages, que notre Dieu est un Dieu de compassion. Et que Jésus-Christ, qui nous a envoyé son Fils, est lui-même notre modèle par excellence, un Dieu de compassion. Il avait de la compassion sans limite. Et dans les rues de Jérusalem, il marchait, c'était la compassion, l'incarnation de la compassion qui était dans les rues de Jérusalem. Christ, les compassions de Dieu, incarné, prenant la chair humaine, il marche dans les rues de Jérusalem, il sillonne les villes et les bourgades, et il prêche la parole de Dieu, et il guérit des malades. Il avait l'évangile dans la main droite et le social dans la main gauche. Tantôt, il guérissait, et après l'évangile venait, tantôt il donnait l'évangile, et après le social et les miracles suivaient. La guérison et la restauration suivaient. Je me souviens quand j'étais en Afrique encore, on travaillait dans la mission, on faisait l'implantation d'église parmi les musulmans. Quelqu'un, un missionnaire, on discutait, je dis, mon frère, ici en Afrique, tu veux travailler, je ne sais pas chez vous, c'est comment, mais ici nous sommes parmi des musulmans. Quand ils se convertissent, ils sont chassés de leur famille, ils n'ont pas d'emploi, ils ont besoin que nous créions des possibilités et créer des emplois pour eux, faire des activités sociales pour qu'ils puissent se prendre en main. Ils sont chassés, ils perdent tout. Si l'Église ne fait rien pour eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils risquent de retourner à cause de la pression, de la pauvreté, ils n'ont plus rien. Alors je me souviens que ce missionnaire a dit ceci, nous ne sommes pas là pour faire du social. Tabarnouche, j'ai sauté. J'ai dit, dans ce cas, prends tes bagages, rentre chez toi. Je ne crois pas que tu sois venu pour servir Dieu si tu ne peux pas faire le social. Parce que Christ avait le social dans la main gauche et l'évangile dans la main droite. Alors si toi tu dis que tu n'es pas venu pour faire cela, alors pourquoi tu es ici? Es-tu missionnaire ou démissionnaire? Et je lui ai dit ça, et il a été brassé. Et encore, on a gardé l'amitié. Il est aux États-Unis aujourd'hui, il fait la navette en Afrique, et puis les États-Unis, quand il m'appelle, il me dit, je n'ai jamais oublié ce que tu m'as dit. Et ça a changé les choses. La mission s'est mise à travailler, et à former, et à établir, et à aider les gens. Notre Église, l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, si elle veut être pertinente dans la société, nous devons avoir de la compassion. Même s'il y a d'autres organisations qui en font, ça ne nous empêche pas, nous, d'en faire. Amen. De prendre soin des nôtres. De prendre soin de ceux qui sont devant nous. Alors donc, maintenant on peut dire, qu'est-ce que la compassion sans limite? La compassion sans limite est une attitude antérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse et à sympathiser avec eux, sans tenir compte de leur race, de leur rang social, de leur ethnie, de leur sexe, de leur condition physique ou de leur lieu de provenance. Amen. Ça c'est la compassion sans limite. Et nous pouvons trouver cela dans les Écritures, on peut voir ça dans le texte du Bon Samaritain. Dans le texte du Bon Samaritain, dans Luc chapitre 10, qu'est-ce qui se passe? Jésus raconte une histoire. C'est un pharisien qui se lève, il dit à Jésus, il dit, qui est mon prochain? Parce qu'ils viennent poser la question, on dit au Seigneur, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au ciel, ainsi de suite? Il leur parle, il dit, vous devez obéir les 10 commandements, ainsi de suite, vous connaissez cela? Il dit, oui. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, un pharisien se lève, il répond, mais qui est mon prochain? Comme pour narguer le Seigneur. Alors, le Seigneur va conter l'histoire du bon samaritain. Alors, un chef religieux qui vient, il passe outre parce que quelqu'un est tombé parmi les brigands. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins pour ça. Alors, le pharisien, tout cela, les hommes religieux, ceux qui sont censés démontrer l'amour de Dieu, pratiquer cela, avaient manqué de la consolation pour l'homme qui est tombé parmi les brigands. Quelqu'un peut me donner un mouchoir ici, s'il vous plaît? Parce que je transpire, là. Bon, je pense qu'on va enlever le manteau. Manteau de compassion. Ouais, de compression, merci. Excusez, merci beaucoup, mon frère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Alors, Jésus conte cette histoire. Et il pose la question à la fin au monsieur. Il dit, qui semble être le prochain de celui qui est tombé parmi les brigands? Alors le pharisien répond bien. Il dit, celui qui a accordé la miséricorde à cet homme. Il dit, tu fais bien, toi va faire de même. Les autres ont dit, ils ont tenu compte de leur rang social à eux. Moi je suis un sacrificateur, je ne touche pas à ce monsieur qui est blessé. Moi je suis de tel côté, je ne touche pas à ce monsieur qui est blessé. Alors, cet homme qui est de passage, un samaritain, peut-être même celui qui était blessé par les brigands, peut-être c'était un juif. L'écriture ne le dit pas. Je dis peut-être. Mais cependant, le samaritain vient prendre soin de lui. Il aurait pu dire, ben, si c'était un juif, mais lui et moi, là, il y a des feux entre nous, il y a des flammèches entre nous, on s'entend pas. Si c'est mon aide, il attend pour vivre qu'il crève. Mais non, il est allé apporter de l'aide. Il l'a soulevé, il l'a amené, il a pris soin de lui. La compassion sans limite dépasse les frontières. Moi j'appelle ça, c'est un amour sans frontières. Médecin sans frontières, un amour sans frontières, une compassion sans frontières. C'est ça que nous devons être. Prendre soin des uns des autres sans tenir compte de leur couleur, sans tenir compte de leur grandeur, sans tenir compte de leur rang social. Si c'est un PDG, ce n'est pas un PDG, on s'en fout. Il est dans le besoin, il est dans le trouble, il a besoin de mon soutien, je donne le secours qu'il a besoin. Amen. Et on voit aussi avec la fille de Pharaon qui va prendre soin de Moïse. Cependant, son père avait donné le décret de détruire, de décimer les enfants, garçons juifs qui naissaient. Elle voit Moïse sur le Nil, elle le prend. L'Écriture nous dit qu'elle eut compassion de lui. Elle eut pitié de lui. Elle prend Moïse sous ses bras et elle l'élève. Sans tenir compte de son lieu de provenance. Sans tenir compte de sa race. Sans tenir compte de sa tribu. Sans tenir compte de son ethnie. Elle a élevé Moïse. Et nous connaissons la suite, ce que Dieu a fait de cet homme. Amen. La compassion sans limite. Alors, la compassion sans limite, nous pouvons voir cela. Comment Dieu a-t-il manifesté sa compassion ou a démontré sa compassion dans la Bible pour nous? A démontré sa compassion premièrement pour Israël. Il a démontré sa compassion pour Israël. Nous voyons cela dans le texte de Exode chapitre 2 jusqu'au verset 25. On va voir ça plus tard, encore plus loin, un autre aspect. Qu'est-ce qu'il dit? On dit longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Et ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. Dieu se souvient de son alliance. Il se souvient de la promesse qu'il a faite pour Abraham. Je ferai de toi une nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il se souvient réellement d'Isaac. Il se souvient réellement de Jacob, le fils de la promesse. Ceux qui sont réellement les débuteurs, ceux qui sont les premières personnes qui vont partir la balle de la grande famille d'Abraham qui va être une bénédiction pour toutes les nations. L'Écriture nous dit que Dieu se souvient de sa promesse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les enfants d'Israël. Il eut compassion. Il brûle du désir de prendre soin d'eux. Il brûle du désir d'aller les aider dans leur souffrance, dans leur douleur. Alors, il ne reste pas dans le ciel. Dans le chapitre 8, on nous dit, chapitre 3, verset 8, on nous dit, la suite du texte, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Phéréziens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens et les Éviens et les Jébusiens. » Waouh! Dieu descend. Moi, je veux savoir, est-ce que Dieu n'est pas descendu pour vous et moi? L'Écriture nous dit que Dieu est descendu pour vous et moi. Il n'est pas descendu comme sur la montagne de Sinaï, où c'était intouchable, où personne ne pouvait s'approcher. Il est descendu en chair et en os. Il a marché dans les rues pour vous et moi, afin de nous secourir. Il est venu nous secourir dans le sens qu'on était dans des troubles, dans des difficultés. Comme Israël, Dieu descend, il vient. Et puis non seulement il agit, il dit, je les fais sortir de ce danger, je les amène dans un autre endroit où ils seront sécurs, où ils ne manqueront de rien. Il n'y aura plus de servitude, il n'y aura plus de domination sur eux. Moi seul, je serai leur Dieu, moi seul, ils me serviront. Amen. Alors quand Dieu nous appelle du monde pour venir à lui, sa raison d'être, c'est quoi? Son but, c'est quoi? C'est pour que nous soyons bien, que nous soyons meilleurs, que nous soyons des adorateurs et que nous soyons à son service. Que rien d'autre ne domine sur notre cœur, sur nos pensées, sur nos actions. Seulement que lui, Dieu, qui veut notre bien, notre bienfaiteur, qui n'abusera pas de nous. C'est ça que Dieu fait pour nous. Amen. Ce matin, Dieu t'a délivré pour que tu sois une bénédiction. Dieu t'a délivré par compassion. Alors il veut que tu aies aussi à ton tour de la compassion pour les autres. De la compassion pour ton épouse. De la compassion pour ton mari. De la compassion pour tes enfants. De la compassion pour ton patron qui peut peut-être être écœurant pour toi au travail. De la compassion pour tes collègues de service. De la compassion pour moi-même, Adama Diko, qui te parle. Et que moi aussi je dois en avoir pour toi. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Si on n'a plus de compassion, c'est nous qui devons maintenant, nous sommes des instruments et des outils qui doivent vivre la compassion de Dieu dans les rues de Trois-Rivières, comme Jésus l'a vécu dans les rues de Jérusalem et d'ailleurs. Amen. Amen. Alors, la compassion sans limite. Nous allons regarder maintenant. Dieu lui-même est descendu. Non seulement il est descendu, mais il a fait venir son fils Jésus-Christ pour nous, comme je viens de le dire. Il est descendu par Jésus-Christ et Jésus a manifesté cette compassion. Comment? De plusieurs façons. Jésus a manifesté sa compassion par la multitude et sa compassion pour la multitude, pour la foule. Alors nous pouvons regarder cela dans Matthieu chapitre 9. Ok. Pendant que vous cherchez, je vais chercher mes lunettes, excusez. pas dans une poche. Voyons. Excusez-moi. Nous pouvons le lire ensemble, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. L'Écriture nous dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il le fut. Amen. J'aimerais que vous parlez comme si vous êtes ému. Il le fut. C'est bon, on y va. Vous commencez à être dans l'émotion, c'est bien. Ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alors puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Alors, je m'arrête là, je ne vais pas lire tous ces noms-là, mais on connaît. Mon point, c'est quoi? Jésus eut compassion de la foule. L'Écriture nous dit cela. Il eut compassion, il voit la foule, il marche dans les rues de Jérusalem, dans les villages, il annonce la parole de Dieu, il guérit les malades, et puis, à un moment donné, il s'arrête, il regarde la foule. Il eut compassion de leur état. Qu'est-ce que Jésus voit? Des brebis sans berger. Des sans berger. Israël est appelé à maintes reprises comme étant le troupeau de Dieu. Dans Ézéchiel 34, à partir du verset 1 à 5, il est appelé que Israël est le troupeau et les brebis de l'Éternel. Il parle de là encore des bergers. Des bergers qui dominent mal sur Israël. Et là encore, c'est des bergers, des leaders qui sont là, mais ces leaders-là ne sont pas des leaders qui donnent une direction spirituelle au troupeau d'Israël pour les amener à la bonne place, pour les conduire vers le bon berger. Jésus, le bon berger, était au milieu d'eux, mais cependant, ils empêchaient les gens de venir à lui. Le peuple était livré à lui-même. Ils n'avaient pas de direction spirituelle. Ils étaient loin. Comme notre société aujourd'hui, nous avons des leaders, mais qui n'ont pas une direction spirituelle, qui n'ont pas la vision de Dieu. Donc le peuple est livré à lui-même. Alors Dieu veut des bergers pour son troupeau. Le peuple et le monde entier. Alors il dit, ils sont abattus, ils n'ont point de berger. Est-ce que tu te sens comme un troupeau, une brebis qui n'a pas de berger? Nous, à l'Assemblée chrétienne, on a 5 bergers et plus des excédents, ceux qui sont encore suppléments, des supplémentaires qui aident. N'est-ce pas? Donc, on est béni. On est béni d'avoir des bergers parmi nous qui nous aident. Alors, Israël n'en avait pas. Et deuxièmement, Jésus voit non seulement des troupeaux, mais il voit aussi une moisson qui est prête à être récoltée. Une moisson qui est prête à être récoltée. Donc il fut ému de compassion. Il faut qu'ils aient des bergers. Non seulement cela, mais aussi la moisson est prête. Alors il dit priez, il dit aux disciples, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa... Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de moissonneurs. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il dit, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers qui sont là ne suffisent pas à la tâche. Moi, la question que je me posais quand j'ai travaillé cela, j'ai dit, mais pourquoi il me demande à moi de prier pour qu'on envoie des moissons, des ouvriers dans sa moisson? C'est sa moisson à lui, non? Est-ce que lui, il ne connaît pas mieux les ouvriers plus que moi? Il connaît le besoin, il me demande à moi de prier. Vous savez la réponse que j'ai reçue de ça? Parce que Dieu veut que j'obéisse. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas tout, il connaît tout. Mais s'il me demande, il veut que je sois partenaire avec lui, mais il veut que j'obéisse. Moi, ma part d'obéissance, c'est de prier. et le reste, lui va s'en occuper. L'église, son rôle est de prier pour que des ouvriers viennent. Il n'a pas dit prier pour la conversion des gens. Il dit prier pour que des hommes et des femmes, Dieu suscite des hommes et des femmes, ayant des cœurs de compassion et qui vont aller vers ce troupeau-là. Parce que la moisson est prête. Les gens sont prêts à recevoir le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne sont pas sauvés? Parce qu'il n'y a personne pour les conduire à Christ. Il n'y a personne pour les annoncer l'évangile. Il n'y a personne pour leur expliquer le message du salut dans sa compétence, dans sa plénitude et dans toute sa puissance. C'est ça qui manque. Il n'a pas dit qu'il n'y en a pas du tout. Mais c'est peu. Imaginez-vous, au début de l'église, 12 personnes ont bouleversé Jérusalem. 12 personnes ont bouleversé le monde entier. Nous sommes plus que 12 dans cette salle, n'est-ce pas? Imaginez-vous si nous sortons nous tous, ce matin, on prend notre quartier en main. On ne dit pas, je ne dis pas d'aller frapper les gens avec un coup de Bible, mais d'aller les présenter Jésus-Christ. Amen. Amen. Le monde sera transformé. C'est ça que Jésus était en train de dire. Notre monde a besoin de leaders spirituels et de dirigeants spirituels qui conduisent. Le monde est langui et fatigué. Le monde ne trouve plus de plaisir dans ce qu'ils font. Ils sont fades. Les gens, ils font semblant d'être heureux, mais ils ne le sont pas. Quand vous les approchez de près, ils sont malheureux. Et ils ont besoin de Christ pour changer leur vie. Et qui va le faire si nous, nous ne le faisons pas, frères et sœurs? Une église qui est pleine de compassion, sans limite, c'est une église qui agit comme Jésus-Christ. Amen. Alors, non seulement Jésus a eu de la compassion pour le troupeau, il a eu de la compassion pour Israël et il a travaillé. Et à partir de ce moment, Jésus va établir des disciples. Il va établir 12 et il les envoie. Il leur donne le pouvoir de guérir, le pouvoir de faire des miracles, le pouvoir de prêcher la parole dans toute sa puissance. Ce qui nous dit que quand Dieu appelle, il qualifie. Quand Dieu appelle, il équipe. Quand Dieu appelle, il donne tout ce qui est nécessaire pour la personne d'être percutant sur le terrain. Des fois, quand on parle la vraie, « Oh, moi, je n'ai pas le don d'évangélisation. » Qui t'a dit ça? On a tous un don d'évangélisation. Compte seulement ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est déjà un don. Dis ce que Dieu a fait. On n'a pas dit d'aller enseigner la Bible. On ne te dit pas d'aller faire enseigner les grandes doctrines. On dit compte ce que Dieu a fait dans ta vie. Comme la femme samaritaine, elle a dit, « Venez voir ce qu'un homme m'a tout dit dans ma vie. » Est-ce que c'est l'évangile, ça? Mais tout le village est converti. Elle l'a invité. Donc, tu peux compter ton histoire. L'aveugle naît de naissance. On dit, Jésus, comment il a fait pour te guérir? C'est un pécheur. Il dit, si il est un pécheur, moi je ne sais pas. Mais une chose est certaine, moi je vois. J'étais aveugle et je vois. Ça, c'est pas un témoignage, ça? Amen? Alors ça, c'est des choses qu'on peut compter nous-mêmes. Notre témoignage. Parler de notre témoignage, comment Dieu a changé notre vie. Les gens regardent cela. Ça a plus d'impact que toute n'importe quelle autre chose. Jésus parle. Alors, il a eu de la compassion pour les gens qui sont dans leur douleur. Par exemple, quand on regarde les aveugles ici, on voit aussi des personnes souffrantes qui étaient là. Jésus a eu de la compassion pour eux. Deux aveugles qui courent vers lui pour dire, aie pitié de nous. Jésus a eu de la compassion pour Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, je suis venu vers vous pour vous rassembler comme une poule mère qui rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison sera déserte, je m'en vais. Jusqu'à ce que vous criez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a eu de la compassion pour Jérusalem. Il a pleuré pour Jérusalem. Ça le tenait à cœur. Il a eu de la compassion pour les lépreux. Le lépreux qui est venu le voir, il a guéri. Il a eu de la compassion aussi pour Lazare, devant le tombeau de Lazare, pour les sœurs de Lazare. Pour Marie et Marthe, il a pleuré dans le plus court verset de la Bible, Jean 11, 35. Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il voulait épater les gens? Parce qu'il voulait donner vraiment un spectacle? Il a pleuré parce que ça le tenait à cœur. Parce qu'il voyait beaucoup de choses dans le cœur des hommes. Parce qu'il voyait encore cette population qui était encore des brebis sans berger. Parce qu'il voyait que malgré tout ce qu'il va faire, certaines personnes resteront encore incrédules. Il a pleuré par compassion pour eux. Et il ressuscite Lazare. Il a eu de la compassion dans le deuil pour la femme, la veuve qui a perdu sa fille. Il relève l'enfant et il le donne à sa mère. Jésus a eu de la compassion. C'est ainsi que Dieu veut que nous ayons de la compassion. En conclusion, à quoi ressemble notre compassion? Comme Église, comme frère, à quoi ressemble notre compassion? Est-elle sans limite à l'exemple de celui de Christ ou elle a des limites? Est-ce que notre compassion est sans limite? Ou elle a des limites dans nos cœurs et dans notre esprit? Ou notre compassion, c'est seulement pour nos amis? C'est mon chum, c'est seulement pour ma maman, c'est seulement pour mon frère, c'est seulement pour ma blonde. C'est seulement pour mes collègues de l'Église, les anciens, les leaders, le comité du CA, alors avec les diacres et ceux qui font le service dans l'Église, et ceux-là, ma compassion est réservée pour eux seulement. Pour les autres, on s'en fout. Est-ce que c'est comme ça? Non! Une compassion sans limite, c'est une compassion sans frontières. Amen! Si vous n'avez rien compris dans tout ce que j'ai dit, comprends ça. Une compassion sans limite, c'est une compassion sans frontières. Tu as pitié de ceux qui sont dans le besoin et tu les rends service sans tenir compte de leur couleur, sans tenir compte de leur âge, sans tenir compte de leur rang social, sans tenir compte de leur santé physique, sans tenir compte de leur ajoutez-en. Amen. Nos personnes âgées dans nos églises peuvent dire que nous avons de la compassion pour eux? Nous devons avoir de la compassion pour nos personnes âgées. On dit un géant est toujours sur les épaules de quelqu'un qui est plus grand, n'est-ce pas? Alors si nous sommes ici, c'est parce que des aînés nous ont mis au monde et des aînés ont travaillé pour rendre la société agréable et que nous, nous patinons, nous surfons sur cela et nous n'avons pas à les mépriser. Nous devons avoir du respect pour toutes nos personnes âgées. Prendre soin d'eux. Avoir de la compassion pour eux, pas de la pitié négative, mais de la compassion, un désir brûlant de leur venir en aide quand ils demandent. Parce que si tu ne le fais pas, un jour tu seras rendu là, et les autres te le feront ce que tu leur as fait. Chez nous, on nous dit que si un lépreux veut savoir comment ses funérailles vont se dérouler, vous savez ce qu'il doit faire? Il assiste aux funérailles d'un autre lépreux. Si tu ne prends pas soin des aînés, tu es en train de montrer à la future génération comment ils doivent te traiter quand tu seras rendu là. Alors maintenant, faisons-le. Amen. Prenons soin de nos personnes âgées. Prenons soin de nos personnes à mobilité réduite qui nous viennent tous les dimanches, dimanche après dimanche. Elles aiment venir ici parce qu'elles trouvent que nous avons de la place pour elles, que nous avons de l'accueil pour elles. Elles trouvent que nous les aimons et se sentent bien ici. Alors nous devons être comme ça pour tout le monde. Nos personnes malentendantes qui viennent ici pour écouter la parole de Dieu. Et Diane et la femme de Trevor sont là et d'autres personnes leur interprètent la prédication. Interprètent même la musique pendant qu'on est en train de travailler, ils sont derrière. Pourquoi? Parce qu'on les aime, on leur fait de la place dans la maison de Dieu. Il n'y a pas une autre place où ils peuvent être mieux accueillis qu'ici. Amen. Alors donc nous devons être une église remplie de compassion pour la gloire de Dieu. Une église qui a de la compassion. Voilà ce que l'Écriture dit pour terminer. Dans Ésaïe, on parle de vrais jeunes. Et les patrons, ceux qui gênaient, ils ne prenaient pas soin de leurs frères et de leurs serviteurs. Ils les méprisaient, ils étaient durs envers eux. Alors, il leur dit d'avoir de la compassion. Alors, il dit ceci. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton prochain. Ne te détourne pas de celui qui est comme toi, qui a besoin de ton aide. Donne-lui soin. Alors, comme dans Luc 10, Jésus dit à ses pharisiens, « Va, toi, fais de même. » Ce matin, je vous laisse sur ce ton. Allons-y, faisons comme le bon samaritain. Allons-y, faisons comme Jésus-Christ. Soyons l'incarnation de la compassion sans limite dans nos rues, dans nos quartiers et dans nos villages et partout où nous serons. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Premièrement, nous voulons te demander pardon toutes les fois où nous avons manqué de compassion pour notre semblable, pour nos frères, pour nos gouvernants, pour nos dirigeants, pour nos amis, pour notre femme, pour notre enfant. Je te demande pardon. Moi, le premier. Je t'en supplie. Lave-nous, purifie-nous. Donne-nous des cœurs de compassion, des cœurs qui t'aiment, des cœurs qui partagent la souffrance des autres, des cœurs qui sont capables de pleurer et de se réjouir avec les autres, des cœurs qui courent dans les rues pour proclamer la bonne nouvelle. Tu as été la compassion vivante dans nos rues. Alors Seigneur, donne-nous d'être comme toi.